Le journal de la rédaction sur France Culture avec vous, Maxime Fayolle, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Le suspect accusé d'avoir déposé un colis piégé à Lyon la semaine dernière est passé aux aveux hier. Les enquêteurs disposaient de nombreux éléments matériels pour le confondre. Le jeune homme de 24 ans a fini par reconnaître les faits.
Le Premier ministre Édouard Philippe prononcera un discours de politique générale dans deux semaines. Il sera suivi d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Une façon symbolique de lancer l'acte 2 du quinquennat, nous expliquera le politologue Olivier Roucan.
L'échec de Benjamin Netanyahou en Israël a formé un gouvernement. Il avait jusqu'à hier soir pour y parvenir. Les députés de la Knesset ont voté leur dissolution. De nouvelles élections auront lieu à la rentrée. Et l'opposition entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui continue au Proche-Orient aujourd'hui au plan diplomatique avec trois sommets qui se tiennent à la Mecque avec pour but d'isoler Téhéran. Et dans une dizaine de minutes, Florian, la question du jour.
Djihadiste français condamné à mort en Irak, la France doit-elle intervenir? On posera la question tout à l'heure à Olivier de Frouville.
Après près de trois jours de garde à vue, l'homme soupçonné d'avoir déposé le colis piégé à Lyon en fin de semaine dernière est donc passé aux aveux hier soir. Le suspect avait commencé par nier les faits qui lui étaient reprochés. Ses proches ont également été entendus. Ces derniers jours, les enquêteurs ont accumulé assez d'éléments probants, Emmanuel Leclerc, qui ont conduit l'homme de 24 ans à reconnaître les faits.
Les éléments d'enquête accumulés depuis vendredi dernier étaient tellement solides qu'il a fini par être obligé de reconnaître les faits, confie une source proche du dossier. Pendant plus de 48 heures de garde à vue, le suspect originaire d'Oran en Algérie aura d'abord tenté de garder le silence avant de raconter finalement comment il a confectionné sa bombe. Les enquêteurs avaient de toute façon toutes les dates de ses achats sur Amazon, les piles, l'acétone, les petites billes en acier, et ça remonte à plusieurs semaines, ce qui prouverait à quel point cet étudiant en informatique a prémédité cet attentat. Même s'il n'aurait toujours pas expliqué ses motivations, la piste d'une vengeance pour ne pas avoir obtenu un visa pour intégrer une école d'ingénieurs en France n'est pas écartée. Face aux policiers, l'homme affirme en tout cas avoir agi seul pour préparer notamment dans sa chambre le TATP, cet explosif utilisé par les réseaux terroristes islamistes ces dernières années. Un point que les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire cherchent évidemment à vérifier à travers les gardes à vue en parallèle de plusieurs de ses proches, sa mère, son père et son frère cadet, des gardes à vue qui s'achèveront demain.
Emmanuel Leclerc, et je rappelle que l'explosion de ce colis piégé en centre-ville de Lyon a blessé 13 personnes, c'était vendredi dernier. C'est un discours qui doit marquer le changement de méthode de l'exécutif. La déclaration de politique générale d'Édouard Philippe aura lieu dans deux semaines, le 12 juin. Un discours qui sera suivi d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale où La République En Marche dispose d'une majorité de 350 députés sur 577. Ce discours du Premier ministre remplace sera celui d'Emmanuel Macron devant le Parlement réuni en congrès. Il était prévu pour le mois de juillet. Il aura finalement lieu à une date ultérieure, selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, sans toutefois donner plus de précisions. Édouard Philippe va donc se retrouver en première ligne pour expliquer l'acte 2 du quinquennat, même s'il risque finalement assez peu de choses lors de cette allocution devant les députés, explique le politologue et constitutionnaliste Olivier Roucan.
C'est pour le Premier ministre l'occasion de redonner du sens à l'action gouvernementale, de bénéficier de l'interprétation dominante des élections européennes, dont on dit qu'elles sont pas trop défavorables à La République En Marche, et surtout du fait que désormais ce mouvement mord énormément sur l'électorat de la droite classique. Et donc le Premier ministre pourra à son avantage essayer de préciser à la fois que le cap ne change pas, mais de renouer du souffle et de la dynamique à ce qu'il veut faire dans les prochains mois. Donc, on n'est pas du tout ici dans un risque pour le Premier ministre, on est dans une symbolique. On explique qu'on va changer de méthode et comment on va réorienter à la fois le budget, mais aussi peut-être quelques lignes politiques. On va clarifier, notamment peut-être à cette occasion, les réformes essentielles pour les deux ans qui suivent. Il faut remettre de l'ordre un peu dans l'action gouvernementale et dans ses priorités. C'est ce qu'on peut attendre de cette déclaration.
Le politologue Olivier Roucan, également auteur d'En finir avec le président, le répondait à Rosalie Lafarge. Les députés qui, avant d'entendre le Premier ministre, devront débattre de la loi sur les mobilités à partir de la semaine prochaine. Une loi dans laquelle le sort des trottinettes électriques sera tranché. Un décret doit également venir modifier le code de la route pour intégrer ces trottinettes à la liste des véhicules que les automobilistes sont amenés à rencontrer. Il faut dire que dans de nombreuses villes qui les ont adoptées, l'usage de ces trottinettes est souvent anarchique. Leur cohabitation avec les piétons, difficile, ainsi que leur rangement dans l'espace public. Une question qui est prise très au sérieux par de nombreux maires qui ont voulu prendre les devants, Stéphane Robert.
Le 17 mai dernier, le maire du 13e arrondissement de Paris, Jérôme Coumet, lance une opération d'enlèvement des trottinettes électriques mal garées sur les trottoirs.
Opérateur de trottinettes électriques, regardez-moi bien dans les yeux.
Et il poste ce message sur son compte Twitter.
Les trottinettes électriques mal garées sur les trottoirs, c'est terminé. Régulièrement, nous organiserons des opérations d'enlèvement. Le grand n'importe quoi, ça suffit. Je ne lâcherai rien.
À Nantes, la municipalité s'est montrée plus sévère encore puisqu'elle a interdit le déploiement de ces trottinettes dites en flotte libre ou en libre service. Depuis quelques mois, elles ont envahi les trottoirs d'un certain nombre de grandes villes et en particulier de Paris. Leurs utilisateurs déboulent parfois comme des bolides, percutant les piétons sur les trottoirs et ils les garent de façon complètement anarchique sur la voie publique. Tout ça n'a rien de surprenant ni rien de nouveau, selon l'historien Arnaud Passalacqua, maître de conférence à l'université Paris Diderot.
Toute nouvelle technologie crée ces accidents. Le chemin de fer, avec 1842, un très grand accident à Meudon, qui marque beaucoup les esprits. L'automobile, on parlait des écraseurs de la route en 1901. C'est le même cas pour les autobus, on va dire, quand ils commencent à accélérer, à plus être trop maîtrisés, avec leur motorisation qui est plus le cheval. Et donc, les cochers, ils savent plus forcément bien y faire, etc. Donc, on est vraiment sur aussi une dynamique d'adaptation entre l'objet qui est pas mature, qui est pas mûr, et qui doit lui-même trouver son fonctionnement, et puis la société qui doit trouver une place.
Les députés à l'Assemblée ont décidé d'empoigner la question et discuteront d'une nouvelle réglementation dans le cadre de l'examen de la loi sur les mobilités à compter du 3 juin prochain.
Stéphane Robert et le bouleversement de l'espace public par les trottinettes électriques, c'est un dossier à retrouver sur franceculture.fr. À 2 semaines du baccalauréat, plusieurs syndicats de professeurs appellent à la grève le 17 juin pour le premier jour des épreuves. Une grève de la surveillance de ces épreuves, une façon pour les syndicats de faire pression sur le gouvernement, notamment à propos du projet de loi Blanquer, très critiqué. Un appel à la grève soutenu par le syndicat majoritaire dans le second degré, le SNES, mais aussi par FO et la CGT.
7h07, la suite du journal sur France Culture avec vous Maxime Fayol et direction Israël qui se dirige vers de nouvelles élections législatives après l'échec de la formation d'un gouvernement.
Benjamin Netanyahou est sorti vainqueur des précédentes élections. Il avait jusqu'à hier soir 23h59 pour former son gouvernement. Il n'y est pas parvenu malgré plusieurs tentatives de négociation hier. Les Israéliens vont donc retourner aux urnes le 17 septembre prochain après le vote par les députés de la Knesset hier de leur dissolution. Cet échec marque une crise politique majeure en Israël, Étienne Monin, autant qu'il fragilise Benjamin Netanyahou.
Eli Avidar,
Béad. Entouré par les députés du Likoud dont il a sécurisé le vote un peu avant, le visage fermé, les lèvres pincées, Benjamin Netanyahou écoute le résultat qui sonne comme sa défaite personnelle, même s'il ressemble à cet instant à un naufrage collectif. Les discussions de dernière minute n'ont pas changé la trajectoire. Avigdor Lieberman est resté sur ses positions, opposé à la prédominance, dit-il, du religieux dans la coalition.
Nous sommes les partenaires naturels de la droite. Nous ne serons pas les partenaires d'un gouvernement soumis à la loi juive.
Dans cette affaire, le Premier ministre a perdu son flair politique légendaire. La majorité lui a glissé des mains. Il s'estime trahi par son ancien ministre.
Tout simplement incroyable. Avigdor Lieberman fait maintenant partie de la gauche. On lui donne des voix de droite, mais lui ne donne pas sa voix pour un gouvernement de droite. Et ce qui se passe devant nous, c'est qu'il fait tomber un gouvernement de droite.
Le Premier ministre s'accroche maintenant aux élections qu'il a lui-même provoquées pour empêcher la nomination d'un autre élu qui aurait pu tenter de former une coalition sur d'autres bases.
Étienne Monin. Et de son côté, l'Arabie Saoudite organise aujourd'hui et demain 3 sommets diplomatiques, 3 réunions de l'Organisation de la coopération islamique, du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue arabe. Des réunions qui trouvent leur origine après le sabotage de 3 pétroliers au large des Émirats arabes unis. Pour les États-Unis, cela ne fait pas de doute. Le responsable est très vraisemblablement l'Iran, selon les mots de John Bolton, hier le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. L'objectif de Riyad avec ces réunions est donc d'accentuer l'isolement de Téhéran dans la région. Christian Chéneau.
Face aux pressions des États-Unis et des pétromonarchies du Golfe, la République islamique serre les rangs. La bataille fait rage sur le plan économique. Washington ne cache pas sa volonté d'asphyxier l'Iran pour que la population se retourne contre ses dirigeants. À cause des sanctions américaines, les exportations de pétrole iranien sont en chute libre. Elles sont passées de 2,5 millions de barils jour en 2018 à moins de 500 000 aujourd'hui. Les Iraniens sont donc en train de mettre en place un système de contournement de l'embargo. Pour tenir, il nous faut exporter 1 million de barils de brut par jour, nous confiait un diplomate iranien qui ajoute que des intermédiaires privés de différentes nationalités pourraient écouler la production de Téhéran. Bref, L'Iran revient à une économie de guerre et de contrebande. Sur le plan militaire, Téhéran n'a pas l'intention de baisser la garde, notamment de freiner son programme balistique, carte maîtresse de dissuasion. L'Iran a d'ailleurs beau jeu de pointer du doigt les États-Unis et les Européens, en particulier la France, qui multiplient les contrats d'armement avec ses rivaux arabes du Golfe Persique.
Les précisions de Christian Chesneau. En Hongrie, le naufrage hier d'un bateau sur le Danube qui traverse la capitale Budapest. 7 touristes sud-coréens sont morts, 19 autres sont toujours portés disparus ce matin. Il pourrait s'agir d'une collision avec un autre navire à proximité du Parlement qui serait à l'origine de ce naufrage. Peu d'avancée hier à Oslo en Norvège dans les discussions entre les représentants de Nicolas Maduro et de Juan Guaido. Les deux hommes forts du Venezuela ont envoyé leur délégation pour dialoguer. Il s'agit du premier exercice du genre pour tenter de trouver une sortie de crise dans le pays. Le président autoproclamé Juan Guaido continue d'appeler à des manifestations contre Nicolas Maduro et à la mise en place d'un gouvernement de transition. En Algérie, nous vous en parlions hier, une enquête est ouverte après la mort d'un militant des droits de l'homme. Kamel Eddine Fekar est décédé après une grève de la faim de plus de 50 jours. L'ONG Amnesty International appelle les autorités algériennes à ordonner une enquête indépendante et impartiale sur les circonstances de ce décès. Le temps de ce jeudi de l'Ascension, très nuageux et humide sur le nord du pays, plutôt chaud et ensoleillé au sud, c'est donc une France coupée en deux. On attend de la pluie ce matin de la Bretagne au bassin parisien, mais aussi sur les Hauts-de-France et la région Grand Est. L'Alsace doit toutefois y échapper. Les températures minimales sont comprises entre 7 et 13 degrés en général. Les maximales cet après-midi de 18 à 23 degrés, Florian Delorme.
Merci Maxime Fayolle, on vous retrouve à 7h30.